Parmi les actes de guerre habituels, la destruction des villes fait partie d'une routine bien rodée. Mais certains faits de guerre, plus que d'autres, ont marqué les esprits, comme Hiroshima et Nagasaki, car ces centres urbains furent vaporisés par des engins nucléaires. Ceci dit, dans le monde antique aussi, on savait rayer une ville de la carte. Jérusalem, où l'Éternel avait pourtant choisi d'établir son nom, est à terre, humiliée et ruinée. En utilisant des images frappantes et le genre littéraire de la lamentation funèbre, Jérémie a su exprimer avec force toute la détresse du peuple de Dieu devant la prise de la ville sainte en proie aux flammes, devant la destruction du temple et l'exil de ses habitants. Cependant, le prophète rend honneur à Dieu pour sa justice. Le premier chapitre du livre des Lamentations se termine avec une prière de Jérusalem personnifiée qui dit « Fais donc venir le jour que tu as annoncé et que mes ennemis deviennent comme moi. Oh oui, tiens compte de leur méchanceté et traite-les comme tu m'as traité pour punir mes forfaits. » Ces paroles remarquables sont à la fois l'expression d'une repentance sincère, puisque Jérusalem donne raison à Dieu, et en même temps une imprécation. Autant la ville sainte accepte avec soumission son propre châtiment, autant elle réclame l'application de la même règle à ses ennemis, Babylone en tête. Ce n'est pas un cri de vengeance, mais un humble appel à Dieu afin que justice soit faite. Le second chapitre commence avec le même mot que le premier. C'est une note de surprise mêlée de plainte. Je commence à le lire. Comment, dans sa colère, le Seigneur a couvert par les ténèbres la population de Sion? Il a précipité du ciel jusque sur terre la splendeur d'Israël. Il a même oublié l'escabeau de ses pieds au jour de sa colère. Verset 1. L'escabeau désigne le coffre de l'Alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Une grande partie de ce chapitre est consacrée à une description dure du malheur sans précédent qui a frappé Israël. C'est l'Éternel qui, comme je l'ai dit, en est le véritable auteur, alors que Nabucodonosor n'est que l'instrument de sa colère. Ça me fait penser qu'au hasard de la ville m'est arrivé de croiser le chemin et parfois le faire avec des gens que j'aurais préféré ne jamais rencontrer. Mais c'est Dieu qui l'a permis ou même planifié pour accomplir ses objectifs en moi. Ça ne me plaît pas tellement, mais ce n'est pas moi qui décide. Je continue le texte de Jérémie plus loin. Le Seigneur a agi en ennemi. Il a englouti Israël et englouti tous ses palais, démoli ses remparts. Et pour le peuple de Juda, il a multiplié les douleurs et les plaintes. Il a forcé sa haie. Tout comme celle d'un jardin, il a détruit le lieu de la rencontre qui lui appartenait. En Sion, l'Éternel a livré à l'oubli les jours de fête et de sabbat, et dans sa colère indignée, il a méprisé les rois et les prêtres. Le Seigneur a rejeté son autel et il a dédaigné son sanctuaire. Il a livré à l'ennemi les murs de ses palais, leurs voix ont retenti dans le temple de l'Éternel comme en un jour de fête. Versets 5 à 7. C'est l'Éternel qui avait dessiné les plans du temple, ordonné à Salomon de le construire et choisi d'y faire résider son nom. Et maintenant, il l'a détruit. Le Seigneur a rejeté son autel et il a dédaigné son sanctuaire. Au lieu des cris joyeux, des jours de fête, on y entend les cris de triomphe que poussent les soldats babyloniens. Le temple en ruine me rappelle que fréquenter une église n'est pas un gage de sécurité. Ça ne protège pas contre le jugement. Un lieu de culte n'est rien. Ce qui compte, c'est la condition spirituelle de ceux qui le fréquentent. La nuit où Jésus fut arrêté, l'endroit le plus dangereux pour les disciples n'était pas la garde romaine en bas dans la ville, ou même le conseil suprême des religieux juifs qui complotaient l'assassinat du Christ. Non. Le vrai danger pour les disciples était en eux-mêmes. Allaient-ils croire ce que Jésus leur avait enseigné ou prendre la tangente comme Judas, qui a voulu faire du fric sur le dos du Seigneur, ou Pierre, qui l'a renié trois fois de suite en voulant sauver sa peau? Le vrai danger se trouvait dans la chambre haute en compagnie de Jésus parce que Satan y était. Il pénétra dans le cœur de Judas et même dans celui de Pierre, puisque ce soir-là, l'apôtre l'a renié 3 fois. Je continue le texte. L'Éternel a résolu d'abattre les murs du peuple de Sion. Il a étendu le cordeau. Il va la niveler. Il n'a pas retiré sa main avant de les avoir détruits. Il fait mener le deuil aux remparts et aux murs. Ensemble, ils se sont délabrés. Ses portes se sont effondrées, enfouies sous les décombres. Il a détruit tous leurs verrous. Il les a fracassés. Son roi et ses ministres sont exilés chez les nations païennes. Il n'y a plus de loi, et ses prophètes ne reçoivent plus de révélation de l'Éternel. Versets 8 et 9. L'observation de la loi et les prophéties étaient deux amarres de la religion juive qui témoignaient de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Elles ont disparu avec le temple et le coffre sacré. Il y avait bien encore des prophètes de l'Éternel, comme Jérémie, mais au moment de la prise de Jérusalem, Dieu ne leur a donné aucune parole de réconfort pour son peuple. Tout laissait à croire que Dieu l'avait abandonné. Je continue. Les vieillards de Sion sont assis sur le sol et gardent le silence. Ils ont revêtu des habits faits de toile de sac et ils se sont jetés de la poussière sur la tête. Les jeunes filles de Jérusalem courbent la tête jusqu'à terre. Mes yeux s'épuisent à verser des larmes et l'émotion me brûle. Tout courage me quitte à cause des malheurs qui ont frappé la communauté de mon peuple, à cause des petits-enfants et des nourrissons qui défaillent dans les rues de la ville. Ils disent à leur mère, « Où y a-t-il du pain? Où y a-t-il du vin ?» Les voilà qui défaillent comme blessés à mort dans les rues de la ville, perdant leur dernier souffle sur le sein de leur mère. Versets 10 à 12. Jérémie conclut la première partie de cette plainte sur une note personnelle qui exprime sa propre douleur. Il est déchiré de l'intérieur en se rappelant les derniers temps du siège et décrit, comme s'il y était encore, une des horreurs qu'il a vécues, un petit enfant affamé en train de mourir dans les bras de sa mère. Je continue plus loin. Les passants sur la route battent des mains. Ils sifflent, ils hochent la tête en te voyant, ô population de Jérusalem. Est-ce là cette ville qu'on appelait jadis beauté parfaite, joie de toute la terre? Verset 15. Hocher la tête était un signe de mépris. Ce sont les nations voisines et ennemies héréditaires d'Israël qui se réjouissent de la ruine de Jérusalem et ce qui se moquent d'elle. Je continue. « Vois, tous tes ennemis ont ouvert largement leur bouche contre toi. Ils sifflent, ils grincent des dents et ils s'exclament. Nous l'avons englouti. C'est le jour que nous attendions. Nous y sommes. Le voici enfin. » L'Éternel a réalisé tout ce qu'il avait résolu. Il a accompli la parole qu'il avait prononcée depuis des temps anciens. Il a tout démoli sans aucune pitié. Il a réjoui tes ennemis à tes dépens. Il a exalté leur puissance. Versets 16 et 10. Dieu avait averti et menacé les ancêtres d'Israël que si son peuple lui désobéissait, il le punirait sévèrement et c'est exactement ce qu'il a fait. Je continue. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Muraille de Sion, laisse couler tes larmes jour et nuit comme un fleuve. Ne t'accorde aucune relâche, que ton œil n'ait pas de repos. Debout, que tes supplications s'élèvent dans la nuit au début de toute l'éveil, et penche ton cœur comme l'eau devant la face du Seigneur. Lève les mains vers lui pour la vie de tes nourrissons qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Versets 18 et 19. Chez les Hébreux, la nuit était divisée en 3 veilles de 4 heures. Au début de chacune d'elles, on entendait la voix des sentinelles qui se relevaient. Jérusalem est invitée à supplier l'Éternel à chaque veille de la nuit. Je continue. « Vois, Éternel, et considère, qui as-tu traité de la sorte? Se peut-il que des femmes dévorent les enfants qu'elles ont mis au monde, les bébés qu'elles ont choyés? Se peut-il que l'on tue les prêtres, les prophètes, jusqu'au sein même du sanctuaire du Seigneur ?» Verset 20. Jérémie fait allusion à ce qui s'est passé pendant les 18 mois qu'a duré le siège de Jérusalem. Des atrocités semblables s'étaient déjà produites lors du siège par les Assyriens de Samarie, capitale du royaume israélite des 10 tribus du Nord, et se répétèrent plus tard lors de l'attaque de Jérusalem par les Romains. Ces monstruosités étaient l'accomplissement des malédictions contenues dans les livres de la loi en cas de désobéissance. Je finis le chapitre 2. Les enfants, les vieillards jonchent le sol des rues. Mes jeunes filles et mes jeunes gens sont tombés par l'épée. Tu les as abattus au jour où tu as fait éclater ta colère. Tu les as égorgés sans aucune pitié. Tu as convoqué de partout des peuples redoutables, comme en un jour de fête, au jour où la colère de l'Éternel a éclaté. Il n'y a eu ni rescapé ni survivant. Ceux que j'avais choyés, que j'avais élevés, mon ennemi les a exterminés. Versets 21 et 22. Jérémie termine cette complainte en rappelant une nouvelle fois l'horreur qu'il a vécue et d'autre part que c'est l'Éternel qui est à l'origine de ce jugement terrible. Nous arrivons au chapitre 3 qui se compose de 22 strophes, de 3 versets chacune, donc 66 en tout. Les trois premiers commencent par la première lettre de l'alphabet hébreu, les trois suivants par la seconde lettre et ainsi de suite 22 fois en tout. En plus de cela, le rythme très travaillé est plutôt complexe. Par cette plus grande richesse, l'auteur a fait de cette complainte le sommet de tout le poème. Ici, il cherche à conduire les Israélites rescapés à entrer dans un état d'âme qui permet à l'épreuve de se transformer en bénédiction. La première partie de ce chapitre est une longue plainte désespérée sans aucune lueur d'espoir. Je commence à la lire en compressant. « Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance sous les coups du bâton de sa colère. Il m'a mené, il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Il a dressé contre moi des remparts d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans des lieux ténébreux comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier et implorer, il n'écoute pas ma prière. » Versets 1 à 8. Le prophète se place en représentant du véritable Israël. Aucun autre homme n'a porté aussi douloureusement que lui le poids du péché et du malheur national. D'ailleurs, il n'entrevoit aucune issue à sa situation tragique et se sent abandonné par Dieu. Je continue. Il a barré tous mes chemins avec d'énormes pierres. Il rend ma route impraticable. Il m'a épié comme un ours aux aguets ou un lion en embuscade. Il m'a fait sortir du chemin. Il m'a mis en pièces. Il m'a transformé en une terre dévastée. Il a bandé son arc et il m'a pris pour cible. Il m'a percé les reins avec les flèches tirées de son carquois. Pour tout mon peuple, je suis devenu la risée et le sujet de ses chansons. À longueur de journée, il m'a gavé d'herbes amères et il m'a abreuvé d'absinthe. Il m'a brisé les dents en leur faisant écraser du gravier. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as banni loin de la paix. Je ne sais plus quel goût a le bonheur. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Versets 9 à 18. Jérémie est très expressif, mais aussi très dur à l'égard de Dieu et il est profondément découragé. Il touche le fond quand il dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Mais curieusement, sa plainte désespérée le ramène à Dieu. En effet, jusqu'ici, il a parlé de l'Éternel sans le nommer à cause de l'amertume de son cœur. Mais maintenant que son nom est sorti de ses lèvres, il reprend courage et se tourne vers lui pour l'implorer. Je continue. « Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. » Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance, car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. C'est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Versets 19 à 27. En invoquant l'Éternel, Jérémie s'efforce de diriger ses pensées sur sa bonté. Il se rappelle du rôle de la grâce et de la providence divine dans les destinées humaines. Cette contemplation lui redonne courage et il espère devenir à nouveau l'objet des inépuisables compassions de Dieu. Si lors du jugement de son peuple, Dieu n'avait pas retenu son bras et exercé sa miséricorde, Israël aurait été purement et simplement rayé de la carte à tout jamais. Mais si vous ouvrez le journal de ce matin, il y a de fortes chances que vous verrez que d'une manière ou d'une autre, on y parle des Juifs. C'est la preuve de la fidélité de Dieu envers son peuple et vis-à-vis des promesses qu'il a faites à Abraham et à David. La nation d'Israël est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Elle peut momentanément disparaître, mais tôt ou tard, elle revient sur la scène mondiale. Je continue. Qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel le lui impose, et qu'il s'incline le visage dans la poussière. Il y a peut-être un espoir, qu'il présente la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie de mépris. Versets 28 à 30. On voit ici une progression du devoir du fidèle allant du plus aisé au plus difficile. D'abord, il reste seul et médite. Ensuite, il se prosterne dans une entière et confiante soumission à Dieu. Et enfin, il accepte de porter l'opprobre. Je continue. Car le Seigneur ne le rejettera pas pour toujours, mais s'il afflige, il aura aussi compassion selon son grand amour. Ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et qu'il afflige les humains. Versets 31 à 33. Jérémie trouve en l'Éternel trois motifs de consolation. Il a suffisamment confiance en sa bonté pour savoir que le jugement, bien que nécessaire, est passager, que Dieu l'exerce à regret et avec retenue selon sa grande compassion. Ces 15 derniers versets font d'ailleurs partie des grands passages de réconfort des textes sacrés. Ils permettent à la foi du fidèle de prendre son essor malgré le boulet au pied qu'il peut traîner. Je continue. Lorsque l'on foule aux pieds tous les prisonniers du pays, lorsque l'on viole le droit d'un homme sous les yeux même du Très-Haut, et lorsque l'on opprime quelqu'un dans son procès, le Seigneur ne le voit-il pas? Versets 34 à 36. Les pires injustices et toutes les exactions qui se commettent sur terre sont bien connues de Dieu et un jour, leurs auteurs devront répondre de leurs actions devant lui. Je continue. Qui donc n'a qu'à parler pour qu'une chose existe? Et celui qui commande, n'est-ce pas le Seigneur? Par sa parole, le Très-Haut ne suscite-t-il pas et le malheur et le bonheur? Pourquoi l'homme se plaindrait-il alors qu'il reste en vie? Que chacun se plaigne de ses péchés. Versets 37 à 39. Le prophète considère que si lui et d'autres sont encore en vie en dépit de leurs fautes, c'est un signe de la miséricorde divine. Ce passage affirme aussi, sans ambiguïté, la souveraineté de Dieu sur toutes les affaires des hommes, y compris l'épreuve, la souffrance et le mal. Aucune entreprise humaine, bonne ou mauvaise, ne peut avoir lieu sans que Dieu ne la ratifie. Je veux bien être le premier à reconnaître que ce concept qui est enseigné par les Écritures est un peu, même beaucoup, difficile à digérer. Je continue le texte. Considérons notre conduite et examinons-la, puis revenons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons été infidèles et nous nous sommes révoltés. Tu ne nous as pas pardonnés. Versets 40 à 42. L'Éternel avait repoussé le châtiment d'Israël jusqu'à la génération sur laquelle le mauvais roi Sédécias régnait. Mais il n'a plus voulu pardonner et le jugement est tombé. Maintenant, le prophète exhorte le peuple à un retour authentique à l'Éternel, ce qui inclut la reconnaissance de ses fautes et leur confession. Je continue plus loin. « Je verse des torrents de larmes à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple. Mes yeux pleurent sans cesse, ils n'ont aucun répit jusqu'à ce qu'enfin l'Éternel, du haut du ciel, regarde et voit. Je suis bien malheureux à la vue de ce qui arrive aux filles de ma ville. » Versets 48 à 51. Le sursaut de foi de Jérémie n'a pas fait disparaître pour autant sa souffrance et il éprouve à nouveau le besoin de l'exprimer. Je continue. Ils m'ont donné la chasse comme à un passereau, ceux qui me haïssent sans cause. Ils m'ont mis dans une citerne dans le but de m'ôter la vie. Ils m'ont jeté des pierres. L'eau montait plus haut que ma tête. Je me disais, je suis perdu. Versets 52 à 54. Jérémie descend encore d'un cran et s'apitoie carrément sur lui-même en rappelant les outrages qu'il a dû subir pendant le siège de Jérusalem. C'est un vrai saule pleureur. Je continue. « Mais du fond de la fosse, ô Éternel, j'ai fait appel à toi, et tu m'as entendu. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris de détresse. Au jour où je t'ai invoqué, tu es venu auprès de moi, tu m'as dit, « N'aie pas peur. Seigneur, tu as plaidé ma cause, tu m'as sauvé la vie. » Versets 55 à 58. Jérémie remonte la pente en se souvenant de la délivrance dont il a été l'objet de la part de l'Éternel. Je continue plus loin et finis ce chapitre. « Tu les rétribueras, ô Éternel, suivant ce qu'ils ont fait. Tu rendras leur cœur obstiné et tu les frapperas de ta malédiction. Tu les harcèleras dans ta colère ardente et tu les détruiras de sous ton ciel, ô Éternel. » Versets 64 à 66. La teneur de ce passage où Jérémie demande le châtiment de ses ennemis tranche avec les sentiments de compassion envers son peuple qu'il a exprimés auparavant. Il faut dire qu'il était dans de vilains draps car il avait été obligé de suivre en Égypte un groupe d'individus peu recommandables qui n'appréciaient guère ses prophéties. Il est donc en danger. Alors, dans une prière imprécatoire, il en appelle à la justice de Dieu. Mais, pour vous et moi, notre modèle de conduite nous a été donné par Jésus quand il a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ».